Ça ne m'amortira pas de la tête que le boulot. C'est une habitude.
Tu sais combien de PME ont déposé l'ambiance?
Les métiers de demain, les parcours et donc les chômeurs. Donc on a un problème terrible, c'est qu'aujourd'hui...
Monsieur le Président, je vous gratte le cul très fort avec une fourchette.
Ce sont des cotisations des salariés, c'est notre argent, c'est notre fric.
Bigger the lie, the more they believe.
Je suis content de m'être réveillé à l'heure. Je trouverai une autre solution.
Bienvenue aux procrastinatrices, aux dépressives, aux siphonnées, aux toquées du casque. Salut à toi dont le dossier CMU traîne sur un coin de table depuis 2 ans. On est à Radio Radier pendant 1 heure sur Canal Sud 92.2. Et aujourd'hui, on va parler de santé. Alors, pas seulement celle de Macron qui s'est beaucoup dégradée au cours des dernières semaines. On va parler de notre santé à nous, la santé des précaires, des chômeuses, de notre santé mentale, de notre accès aux soins. Et de plein de choses aujourd'hui. Mais avant cela, un flash info sur l'allocation présidentielle du peuple de Précarland.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit.
Précaire, précaire. Nous avons été 23 millions lundi soir à écouter l'allocution présidentielle au sujet de l'insurrection, et Radio Radier se doit de réagir. Tout d'abord, les violences. Les violences commises par une minorité de 89 000 personnes armées en marge de la politique d'Emmanuel Macron ne sauront rester impunies. Nous déclarons l'état d'urgence éternel du ACAB. Nous avons conscience que notre riposte se contente petitement d'attaquer les propriétés matérielles, ce qui est peut-être en deçà des attentes du gouvernement. Cependant, nous avons écouté et nous avons entendu les revendications présidentielles, les revendications de celui qui, tous les jours, se lève tôt et se demande comment il va finir son mandat. Peut-être étions-nous aveugles. Peut-être n'avions-nous pas réalisé jusqu'ici à quel point la colère grondait et la frustration enflait parmi les puissants, celles et ceux qui travaillent avec acharnement à la nuisance générale, celles et ceux que nous ne voyons pas assez, qui agissent dans l'ombre, sans mouveter, à l'image de Carlos Ghosn, petit PDG parti trop vite. Ainsi, nous prendrons des mesures fortes pour montrer que toutes ces espérances ne sont pas tombées dans les cellules de dégrisement de l'histoire. Afin d'apaiser les craintes légitimes des capitalos, nous appelons les manifestantes à ne caillasser qu'un panneau JC2CO sur deux et à épargner la banque postale. Cela ne concernera bien sûr que celles et ceux qui le peuvent. Et s'il leur reste des pavés, ils pourront les réinvestir ailleurs. Lors des pillages de Noël, nous balayerons derrière nous et trierons les emballages pour penser à la transition écologique et au petit Jésus. Afin de mieux écouter les doléances des chefs de tous les pays, nous convoquerons Donald Trump à une réunion Skype pour lui dire qu'on l'emmerde. Voilà. Sinon, on va y arriver. Vive l'international.
Et vive Précarland.
Vive Précarland. Longue vie à Précarland.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit.
Alors aujourd'hui, sur Canal Sud pour Radio Radier, on va donc parler de la santé des chômeuses, chômeurs précaires. Et donc, on va commencer pour ça par une petite plongée à l'hôpital Purpan avec des écoutes croisées du directeur du CHU et d'une soignante en lutte dans cet hôpital. Et puis ensuite, on aura en guest star Fraise et Champi, hein, de l'émission C'est pas
l'huissier.
De l'émission C'est pas l'huissier.
C'est pas gagné.
Mais c'est pas le dossier.
Et c'est pas boursier. Et ensuite, on écoutera le témoignage de Flore qui nous parlera de santé et précarité. Et à la fin, on aura Jean Poivre, notre envoyé spécial, qui nous parlera en direct du trou de la sécu. Et tout de suite, du coup, l'hôpital Purpan.
Le mieux est rare, mais le pire n'est pas toujours sûr. Bienvenue Marc Penaud, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez en effet le CHU de Toulouse, qui est en tête du tableau d'honneur 2018 pour les hôpitaux de France. Et j'ai envie de vous demander tout de suite, qu'est-ce qui fait que vous êtes à la tête et vous êtes un des champions ou le champion des établissements publics de santé?
Simple, basique, ok.
18h un dimanche à l'hôpital Purpan. La salle d'attente des urgences est pleine, rien d'exceptionnel en cette fin de week-end.
Je suis arrivé il y a 2 heures à peu près, c'était pour des douleurs insoutenables.
C'est un problème de migraine, donc je ne sais pas si ça peut... j'attends de savoir si ça pourrait être un AVC ou pas.
Vous attendez depuis longtemps ?
J'attends depuis 3h15.
Ça peut arriver qu'il y ait 3 heures d'attente avant de voir l'infirmière d'accueil. Enfin, quand il y a vraiment trop de monde. Pourquoi ils en attendent? Parce que certaines prises en charge, par exemple, là, la patiente que j'ai vue avant, ça m'a pris 10 minutes. C'est simple. Des fois, le problème, c'est que je vais devoir appeler un spécialiste. Mais des fois, ça va durer 20, 30 minutes.
Les 29 lits, les 9 box et les 2 zones de transit sont déjà tous occupés.
Il n'y a plus de place. Donc, ça va être compliqué.
Simple, basique, ok.
Bah, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui devant la préfecture?
Oui, bien sûr. Ben, écoute, c'est pour défendre nos conditions de travail. Moi, je suis infirmière, bon, je travaille à l'hôpital, mais mes collègues dans le privé subissent les mêmes choses. C'est-à-dire un manque de moyens très grave qui fait qu'on travaille dans des conditions très difficiles. Donc concrètement, ça va être un manque d'effectifs. On vient plus souvent et en plus, on travaille... 2 fois plus, si je peux dire. Enfin, il faut en faire plus pour pallier le manque des collègues. Donc, c'est infernal.
Le titre de numéro 1 n'empêche pas que vous ayez des difficultés. Quelles
Bien sûr.
Quelles sont-elles?
Quand
les personnels, d'après ce que je lis dans la presse régionale du CHU Toulouse, se plaignent, sont inquiets, seront de moins en moins nombreux. Ils ont l'impression que les budgets vont baisser alors.
La masse des activités qui sont prises en charge dans les services ont pu éloigner nos personnels et nous-mêmes du sens... Qui est porté par l'hôpital public. On a des difficultés, mais on se donne ces perspectives, redonner du sens, redonner de la valeur par rapport à la prise en charge des patients. La mission numéro 1 d'un responsable d'établissement, d'un chef d'établissement, au-delà des aspects techniques, au-delà des aspects de gestion pure qui sont la base, c'est de donner du sens. L'on veut.
Mais vous avez les rapports avec les patients, donner du sens, mais en même temps...
C'est essentiel.
Oui.
On va devoir refuser des soins à des patients, c'est-à-dire qu'un patient qu'on aurait pu doucher ou accompagner pour... On va pas pouvoir le faire, manque de personnel, donc on va lui proposer un semblant de toilette dans son lit. Ça va être des pansements qui doivent être faits tous les 2 jours et qu'on fera tous les 3 jours. Voilà, la direction appelle ça des procédures adaptées, nous on appelle ça des procédures dégradées. Donc ça voilà, donc pour nous c'est très soignant, c'est terrible quoi, de rentrer à la maison en s'étant épuisé à la tâche et en ayant malgré tout le sentiment d'avoir fait du très mauvais travail. Parce qu'on voit bien que les patients, on n'a pas été là quand ils ont sonné, on leur a pas donné les soins dont ils avaient besoin. Donc ça c'est terrible et ça rend malade. Voilà, ça c'est de la souffrance. Donc ben, pour le patient c'est ça, c'est-à-dire qu'il va attendre très longtemps quand il appuie sur la sonnette. Pour les patients âgés ou autres qui ne peuvent pas manger seuls, on va leur poser le plateau et on n'aura pas toujours le temps de tous les faire manger comme on devrait. C'est tout ça et ça c'est très 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 frustrant quand on est soignant.
Simple.
C'est un hôpital agile, c'est un hôpital capable de s'adapter aux besoins des équipes et aux besoins des patients. Par exemple, c'est un hôpital, comme on est en train de le faire, qui a pris le virage ambulatoire et qui dit à ses patients, aujourd'hui sur un nombre de pathologies de plus en plus importantes, vous pouvez entrer le matin, sortir le soir et on va continuer à vous accompagner et à vous surveiller.
Des économies.
pas pour faire des économies, pour rendre un bon service. Je rappelle que l'activité ambulatoire va de pair avec la lutte contre les infections nosocomiales. Plus on reste dans un lit, plus on est statistiquement exposé aux pathologies nosocomiales.
Donc l'idéal dans l'avenir, avec toutes les nouvelles technologies pour un hôpital, c'est pas de le juger en fonction de ses lits, vous en avez 3000. L'idéal, c'est qu'il n'y ait presque plus de lits, ou le moins possible.
L'idéal, c'est de créer de la valeur, c'est d'innover, c'est de donner du sens. C'est ça les vrais critères, c'est de former les personnels, c'est de préparer l'hôpital à l'avenir.
Ok.
Pour pouvoir contraindre les agents à pas accepter, on va dire, à subir ces conditions de travail ignobles, la direction du CHU applique une politique managériale terrible, on va dire une politique de la peur, c'est-à-dire qu'on est menacé sans arrêt. Alors quand il s'agit de doubler, parce que la collègue elle n'est pas là, donc de faire un deuxième service, on nous menace par exemple d'abandon de poste, c'est des menaces sur la note, c'est les cadres qui refusent systématiquement, faute de moyens, hein, c'est pas de leur fait, mais voilà, les RTT qu'on demande, voilà, c'est la politique de la peur.
Simple, basique, ok.
Je suis entouré d'équipes formidables, de médecins qui me permettent de ne pas redouter, qui font que chaque jour on vient au travail avec enthousiasme et qu'on sait que avec l'enthousiasme des équipes, on sera capable d'affronter les difficultés.
C'est un cercle vicieux en fait. L'absentéisme n'est pas remplacé, donc c'est ce que je disais, soit on travaille avec de l'effectif en moins, soit on s'auto-remplace, ce qui épuise également. Donc ça provoque des arrêts maladie et donc on est de plus en plus absent, de moins en moins remplacé, voilà, et c'est un cercle vicieux. Donc les collègues elles s'arrêtent beaucoup. C'est des collègues qui viennent travailler à boule au ventre en pleurant, de la même manière qu'ils quittent leur service en pleurant. Voilà, qui doivent prendre sur leur temps personnel, parce que pour passer des transmissions de qualité, pour parler de chaque patient, pour dire tout ce qu'on a à dire, eh ben le temps que nous impartit la direction est insuffisant. Donc c'est nous qui devons prendre tous les jours un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parfois une heure pour finir notre travail et voilà, rentrer à la maison une bonne heure plus tard. Donc voilà, on le voit, bon, il y a eu une vague de suicides, en tout cas sur le CHU et ailleurs en France, là, il y a quelques temps, ça continue, et les arrêts maladie, voilà, de plus en plus.
Aujourd'hui, les services d'urgence sont très souvent débordés. L'été, il y a la canicule, la solitude, bientôt, il va y avoir le froid, un moment d'hiver, comment vous y répondez?
On y répond en s'organisant. S'organiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre plus de moyens de façon saisonnalisée. Quand il y a besoin, quand on sait hein, qu'il y aura une grippe hivernale, on sait qu'il y aura des problèmes l'été avec l'augmentation des températures. Donc s'organiser, ça veut dire mettre plus de personnel à un moment donné, mais ça veut dire aussi travailler sur nos organisations internes, regrouper des moyens pour traiter les patients qui en ont le plus besoin de façon dense à un moment donné, mais ça veut dire aussi créer la possibilité, sans passer ou en passant légèrement par les urgences, d'accéder directement à des services de santé.
Votre budget, c'est 1,3 milliard. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Encore des sous, vous?
On a toujours besoin de plus d'argent. Cela étant, on sait aussi dans quelle configuration nationale se situe. Mais on a besoin d'investir pour se transformer et pour se moderniser. L'hôpital public, c'est pas une entreprise comme les autres. L'hôpital public, c'est un service public d'excellence, de santé et de solidarité. Et donc, ça veut dire que l'hôpital public, pour jouer ces missions-là, doit s'appuyer sur l'intelligence artificielle, sur la recherche, sur l'innovation, sur les nouvelles technologies.
Qu'est-ce que vous faites déjà, par exemple ?
Alors, je vais vous prendre plusieurs exemples. Quelques exemples. Par exemple, on est à Toulouse particulièrement bien positionné sur la prévention du vieillissement, vieillir en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler de façon fondamentale, en sciences fondamentales, sur les cellules régénératives issues du tissu adipeux qui peuvent être injectées pour renouveler des
Deuxième
cellules.
Exemple.
C'est aussi la prévention de la fragilité. Avec les technologies, on regarde de loin, à distance, et on suit des patients de sorte que lorsque on a...
Ils n'ont pas à venir à l'hôpital.
Ils n'ont pas à venir à l'hôpital.
Simple, basique, ok.
Alors je vais vous dire, ce que j'espère, c'est que chaque jour, on ait une belle histoire comme celle du petit Alex, qui est un enfant, un bébé qui a été sauvé récemment par nos équipes et qui ont fait une première mondiale sur une intervention chirurgicale. C'est dans la presse aujourd'hui, c'est formidable. C'est ça que j'espère chaque jour.
Merci Marc Penaud pour la santé des Français. La bataille pour rester numéro un sur le podium continue. Demain, à cette place, je recevrai Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Elle est toujours active sur le front social. Pour quels résultats elle nous le dira s'il y en a.
Ah, les revendications, c'est des moyens. Et les moyens, c'est des effectifs. Voilà, c'est des effectifs au pied du malade pour pouvoir préserver la santé des collègues et par là même prodiguer des meilleurs soins aux patients.
Ok. Je vais bien soigner mes patients. Mais avant, faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple. Basique. Ok. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Voilà, et on remercie...
Mais dis donc, fraise, c'est quoi tous ces boutons?
On remercie Jean-Pierre Elkabbach pour cette belle interview de Marc Penaud, donc directeur du CHU de Toulouse, qui, ne le précise pas, mais a 150 ans. Et grâce à la régénération des cellules et l'intelligence artificielle, continue à officier.
Et c'est là que la radio... trouve ses limites, parce que je pense que l'extrait vidéo s'est regardé, puisque oui. Marc Penaud, voilà, pour ses 150 ans, a vraiment la forme et est bien conservé par la chirurgie esthétique. Et pour continuer sur... si vous voulez en savoir plus sur en fait, les luttes qui se mènent aujourd'hui au CHU de Toulouse, il y a un café-débat à l'itinéraire bis. C'est un café au 10 rue Périole, métro Marengo. Il y aura Sabrina Ali Benali et la CGT du CHU de Toulouse qui viendra parler donc dans un café-débat de santé, hôpital, l'état d'urgence. Et ça, c'est demain, jeudi donc 13 décembre, à 20h30, à l'itinéraire bis, donc de 20h30 à 22h30. Voilà pour l'actualité des luttes du CHU.
Ok, et maintenant, on va faire un petit retour en enfance avec un épisode inédit de C'est pas gagné, avec Fraise et Champy qui vont nous rappeler quelques astuces et informations concernant la CMUC.
Bah dis donc Fraise, c'est quoi tous ces boutons sur ton visage?
Ah, bon, ça c'est rien, j'ai juste écouté le discours de Macron hier, ça me fait toujours cet effet-là.
Mais tu peux pas rester comme ça, va chez le dermato.
Derma quoi?
Le dermatologue. C'est un médecin spécialiste.
Oh là là, mais ça va être cher encore tout ça.
Ben non, Fraise, pas si t'as la CMU.
La CMU.
Oh là là, t'as vraiment besoin d'une mise au point, toi. Allez, on y va. En avant, Marcel.
Ta-da-da-da.
maîtresse, t'es où?
Bah, je suis à la caisse.
Bah, depuis quand tu payes tes courses? Sacrée fraise!
Mais non, champi, je suis à la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. C'est la caisse qui finance l'assurance maladie, celle qui te rembourse tes consultations chez le médecin. Mais d'ailleurs, tu sais comment ça marche?
Oui, fraise, la sécurité sociale, c'est le système qui permet de redistribuer une partie des salaires pour financer l'accès aux soins. Des cotisations sociales sont prélevées aux salariés, tu sais ces gens qui n'écoutent pas Radio Radier, et sont reversées aux médecins et aux centres de santé.
Ça veut dire que j'ai pas besoin de payer pour mon problème de bouton?
Ça veut dire que, si tu es affilié à la Sécu, une partie de tes soins est automatiquement prise en charge. Pour le reste, soit tu as une mutuelle que tu payes tous les mois et qui te rembourse les frais selon un forfait, soit tu as peu de revenus et ta mutuelle, c'est la CMUC.
La CMUC? Tu connais, toi, la petite voix?
Eh oui, fraise, la CMUC existe depuis 1999. C'est la couverture maladie universelle complémentaire. Elle est valable pendant un an, renouvelable, et garantit le remboursement d'une grande partie des soins en fonction de tes revenus. Par exemple, en ce moment, tu y as droit si tu as un revenu inférieur à 734 euros. La plupart de tes frais de santé, y compris chez des spécialistes, seront remboursés.
Et champi, ça marche aussi si je n'ai pas la nationalité française? Ni de titre de séjour?
Non, là il s'agit de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est réservée aux demandeurs et demandeuses d'asile. Mais à l'obtenir, c'est compliqué. Et elle n'offre pas autant de garanties que la CMUC.
Et si je touche 800 euros par mois?
Alors, si tes revenus ne dépassent pas 990 euros, tu as droit à l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, qui t'aide à payer une mutuelle.
Eh, hey, champi, c'est quoi ce dossier poussiéreux qui traîne sur ton bureau depuis 10 mois?
Ça, c'est mon dossier CMU. Je souffre de procrastination aiguë. C'est grave, docteur?
Non, c'est normal. L'administration française compte bien sur le non-recours au droit pour réduire ses dépenses de santé. Allez, on va déposer ensemble ton dossier. On y va en caisse?
On va à la caisse en caisse? On n'y va pas avec Marcel, le camion?
Qu'est-ce qu'il y a? Ce sketch s'éternise. On va pas en faire des caisses.
Bah merci, Fraise et Champi.
Merci, Fraise.
C'était très éclairant.
Bah oui. Et alors, sur la CMU, est-ce que vous savez combien de personnes y a-t-il qui auraient droit à la CMU et qui la demandent pas? Enfin, qui l'ont pas, en tout cas.
Genre, le pourcentage de personnes...
Ouais. Bah, c'est presque un tiers, en fait.
Un tiers.
Et alors, pourquoi? Pourquoi il y a tellement de personnes qui auraient droit à la CMU et qui la demandent pas? Bah alors il y a des études, il y a une étude qui a été faite par le fonds CMU, donc qui finance la CMU, et qui a essayé de voir en fait quels étaient, enfin c'était quoi les principaux freins. Et alors le premier truc qui se dégage de ça déjà, c'est qu'en fait la majorité des personnes qui auraient droit à la CMU et qui la demandent pas, mais c'est des personnes qui vivent seules, donc ont personne pour les aider ou les motiver à faire une demande. Et ensuite il y a surtout trois grands facteurs, c'est que bah déjà il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas la CMU, en fait, ou alors qui n'ont jamais eu de complémentaire et qui savent pas vraiment de quoi il s'agit. Et il y a aussi une grande partie des gens qui ont déjà eu la CMUC, mais qui n'ont pas renouvelé leur demande, un petit peu comme Champi, parce qu'ils ont d'autres priorités, parce qu'ils ont un état psychologique qui leur permet pas de faire ces démarches-là. Et aussi, voilà... Et la dernière partie des gens, bah, c'est les personnes illettrées, en fait, qui savent bien qu'elles ont droit à la CMU, mais pour qui les papiers, bah, ils sont juste trop compliqués à remplir. Et voilà, des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Et ça, en fait, voilà, c'est le premier gros frein à la CMU, finalement, c'est le non-recours à la CMU. Mais même une fois que tu as réussi à avoir ta CMUC, et bah, tu n'es pas encore sorti de l'aubergine, j'ai envie de dire. Parce que bah, y a un gros problème avec la CMU, c'est la discrimination qui est faite par rapport aux personnes qui ont la CMU. Et oui, et d'ailleurs la discrimination, enfin vous savez que la précarité économique, elle a été reconnue comme une discrimination dans le droit français en 2016. Ouais. Bon, c'est une mesure qui est purement symbolique, hein, pour l'instant.
Au moment même où ils adoptaient la loi travail.
Exactement, tout à fait. Et en fait, il y a des études et des testings qui ont été faits donc, par le fonds CMUC, par Médecins du Monde, il y a une dizaine d'années. Il n'y en a pas eu apparemment depuis. Et en fait, la discrimination à la CMU, elle prend plusieurs formes. Alors déjà, la première étape, quand on veut se faire soigner, quand on a la CMUC, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et là, bah, en fait, il y a des médecins qui juste refusent les personnes qui ont la CMU.
C'est légal, ça?
Lesquels médecins?
T'as des noms?
On peut les trouver. En fait, ça concerne surtout les médecins spécialistes. Donc ça ne concerne pas vraiment les médecins généralistes. En tout cas, chez les médecins généralistes de secteur 1, normalement, il n'y a pas de problème pour aller voir un médecin généraliste de secteur 1, c'est-à-dire qui ne fait pas payer plus cher que le forfait de 25 euros, je crois. Un petit peu, chez ceux qui font payer un peu plus cher, ils peuvent discriminer, il y a à peu près 15% qui peuvent refuser de prendre des patients qu'on a CMU. Et sinon, ça concerne surtout les médecins spécialistes, les dentistes, et donc particulièrement les gynécos et les ophtalmos de secteur 2. Et donc, en fait, le refus de rendez-vous, il peut être direct. Parfois, il est même carrément affiché et assumé. Donc, en janvier 2017, il y a des associations qu'on repérait par exemple que sur les sites où on prend des rendez-vous, vous savez, Doctolib ou bien monrendez-vous.com, ouais. Et bien là, il y a des médecins et des dentistes qui disaient clairement pas de CMU. Sympa.
Mais du coup, c'est pas légal, ils ont pas le
droit
de faire ça.
C'est pas du tout légal, non. C'est absolument pas légal. Mais du coup, justement parce que c'est pas légal, il y a des médecins qui sont un peu plus fins et qui vont te dire « Ah oui, oui, pour t'arrache de dents, pas de souci, je te donne un rendez-vous. Le 29 février 2023, ça te va ?» En gros, c'est ça. Ou bien qui vont dire « Oui, pas de souci, mais juste appelle mon confrère ou bien appelle l'hôpital. »
Un fil, donc, voilà. Et une porte.
Tout à fait. Et puis il y a aussi des médecins qui refusent le tiers payant ou bien qui font facturer des dépassements d'honoraires, ce qui est normalement interdit pour les patients avec la CMUC. Et donc, les chiffres, c'est qu'en fait, il y a 40%, quand ces testings ont été faits, ça montrait que 40% des médecins quand même refusaient de prendre des rendez-vous. Donc voilà. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que tu as eu ton rendez-vous. Comment se déroulent les soins? Et bien, ces mêmes études, en fait, elles montraient que les conditions de diagnostic et de soins, ils étaient de moins bonne qualité pour les personnes qui ont la CMU. Alors là, c'était pas chiffré parce qu'en fait, c'est hyper difficile de mettre ça en évidence. Mais en tout cas, c'est pas très joli, joli.
Non. Et du coup, heureusement qu'il y a quand même ces études qui permettent de mettre ça en lumière, mais... C'est clair qu'il y a... Enfin, on s'en rend assez compte. Ben, moi, je sais pas, je me rappelle d'un rendez-vous que j'avais pris avec un médecin, mais j'étais sur la mutuelle de mes parents et je comprenais rien à tous ces trucs-là parce qu'il n'y avait pas encore fraises et champis, quoi.
Et voilà. On n'apprend pas ça à l'école.
La gynéco me dit « Vous avez la CMU ?» Et là, je dis « Oui !» Et du coup, elle m'a raccroché au nez, limite.
Ah ouais.
Après, j'ai raccroché.
Tu croyais qu'il fallait que tu l'aies, la CMU?
Oui, voilà, je croyais que c'était un bon point. Enfin, j'avais clairement rien capté, quoi. Voilà, et puis...
Concernant les... C'est l'AME, c'est ça?
Oui, parce que là, on parle que de la CMU. Mais alors, pour les personnes qui ont l'aide médicale d'État, donc les personnes qui n'ont pas la nationalité française et pas de titre séjour, là, c'est encore plus compliqué.
Et tu disais d'ailleurs oui, que l'année dernière...
Notamment l'année dernière, il y avait une lutte, mais encore, c'est encore le cas, puisque à Toulouse, la préfecture, elle ne respecte pas forcément les délais pour... d'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Du coup, une personne arrive en France, elle va se présenter à la préfecture pour dire « Bah voilà, en fait, nous, on est demandeurs de demandeuses d'asile. » Et à partir du moment, avant même la décision, à partir du moment où les personnes sont demandeurs d'asile, elles ont droit à certaines choses. Logement, santé, AME, tout ça. Sauf qu'en fait, si la préfecture ne respecte pas ces délais, que les personnes n'ont pas le statut de demandeur d'asile, elles ne pourront pas bénéficier, en fait, de ces droits-là.
Ils sont dans une zone de rien.
De non-droit.
Quoi. Ouais.
C'est une zone de non-droit.
Oui.
Voilà. Et du coup, à Toulouse, il existe des lieux de soins qui fonctionnent pas du tout pareil que ces médecins qui refusent illégalement les personnes qui ont la CMU. Donc il y a notamment la case de santé. C'est un centre communautaire de soins qui se situe au 17 place Arnaud Bernard. Et qui ne considère pas la santé seulement comme l'absence de maladie, mais comme tout un système social en fait autour du corps et du soin, et qui prend donc en compte la dimension sociale de la santé et de l'accès aux soins, et notamment des personnes en situation de précarité. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir un petit peu si ça peut vous convenir en termes de soins ou d'autres. Ce sont des médecins qui sont aussi en lien avec des collectifs, comme par exemple le collectif Étrangers Malades, et voilà, qui ont une politique ou un fonctionnement en tout cas qui est plus respectueux et conscient en tout cas des problématiques de santé des personnes précaires. Voilà, donc 17 place Arnaud Bernard. Et maintenant, une petite pause musicale.
Une chanson des Ours du Scorff.
C'était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures.
C'était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures.
Il avait tant ravaillé qu'il était tout usé.
Il avait tant ravaillé qu'il était tout usé.
Il s'en va voir le docteur qui le examine pendant des heures.
Il s'en va voir le docteur qui le examine pendant des heures.
Le examen n'était pas fini, le ravailleur s'est endormi.
Le examen n'était pas fini, le ravailleur s'est endormi.
Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller.
Le docteur, dans sa bonté, n'a pas voulu le réveiller.
Au bout de 2 ans et 3 jours, le ravailleur dormait toujours.
Au bout de 2 ans et 3 jours, le ravailleur dormait toujours.
Les autorités du pays sont venues juger le délit.
Les autorités du pays sont venues juger le délit.
Ils ont condamné le docteur pour non-réveil de ravailleur.
Ils ont condamné le docteur pour non-réveil de ravailleur.
C'est pour ça que les gens d'ici sont si souvent raviolis.
C'est pour ça que les gens d'ici sont si souvent raviolis.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Ils chantent pour les bons docteurs qui laissent dormir les ravailleurs.
Et tout de suite, on va écouter Flore qui va nous parler de santé et précarité. Flore, elle est étudiante à Toulouse après avoir été un moment au RSA. Et donc, elle va nous parler de ce que ça fait que d'essayer de soigner sa santé quand on est au RSA ou étudiante.
Du coup, toi, tu te considères comme précaire ?
Oui. Qui se débrouille pour ne pas l'être, en fait. Qui gratte tous les moyens pour ne plus être précaire. Mais oui, je suis née précaire, je mourrai précaire.
Ça veut dire quoi, précaire, pour toi ?
C'est être limité au quotidien par les considérations économiques et limité de façon forte et déterminante pour l'avenir, en fait. C'est pas des petites limites au quotidien qui t'empêchent d'acheter un gâteau à la boulangerie, en fait. C'est une limite quotidienne et systémique qui se nourrit elle-même en permanence et qui aggrave la situation à venir, quoi.
Donc ton parcours dans la précarité, c'est quoi, toi ?
J'ai eu des parents RSA toute ma vie. J'ai un peu cru à l'égalité des chances quand j'étais au collège-lycée parce que j'étais une bonne élève, etc., que j'avais réussi à être dans des établissements de renom, entre guillemets, quoi. Vite, je me suis rendu compte que l'égalité des chances, c'était pas tout à fait vrai. Je suis retombée dans le pas de travail, le RSA, etc. La dépression. Donc la maladie dépression, quoi. Après, je suis repassée étudiante. C'est pire qu'avant, financièrement, bien sûr, quoi. Voilà.
Pourquoi c'est pire qu'avant, concrètement ?
Parce que tous les avantages... entre guillemets, hein, de la précarité officielle, celle du RSAiste, de la personne en recherche d'emploi, tu as des petits avantages des transports, l'avantage de la sécurité sociale, qui est vraiment majeur, quoi. C'est vraiment le truc que je voulais pas quitter quand j'étais étudiante, quoi. C'était limite ce qui m'a fait me mettre en danger dans ma scolarité, c'était le risque de perdre la sécurité sociale étudiante, quoi.
Oui.
Et ouais, je bénéficie de beaucoup moins de choses de par mon statut maintenant, quoi.
Donc quand t'étais au RSA et la CMU, tu pouvais te payer des soins?
Ouais, je me soignais. Comme je disais, j'allais chez le psychologue. J'allais chez le médecin quand j'étais malade, j'avais des problèmes de ventre. Je me suis occupée de mon ventre, machin. Et là, ça revient, et ça fait 3-6 mois que ça traîne, et je peux pas m'en occuper, quoi.
Ouais, donc là, en fait, en étant étudiante, t'as plus droit au RSA, et en plus, t'as plus droit à la CMU.
À la CMU et ni à la complémentaire.
Ouais, le lien que tu fais entre précarité et santé, il est assez clair.
Oui, bah, il est très fort. L'un détermine l'autre en permanence, en fait, et c'est une boucle de détermination. La précarité amène la mauvaise santé physique et mentale, parce que c'est une vie difficile, on mange mal, on est préoccupé par des choses, on est dans des situations que le monde nous fait savoir comme étant douloureuses, du coup on conscientise, etc. Et ça amène à, factuellement, des difficultés, en fait. Toute ma précarité précédente m'a permis d'accumuler suffisamment d'instabilité émotionnelle et psychologique pour être sûre que je serai encore précaire les longues années de ma vie à venir, quoi. Et si j'en sors, ça sera au prix de l'un ou de l'autre, quoi. Ça sera au prix de mon... Enfin, soit je pourrais m'occuper de ma santé au prix de me priver de l'insertion sociale, etc. Soit je m'insère socialement au détriment de considérations comme ma santé, etc. Et on peut faire ni l'un ni l'autre, en fait. Du coup, on est toujours coincé entre les deux et on y reste, quoi.
Et au niveau de la prise en charge de la santé psychologique, je sais pas, tu vois ça comment? Tu dis que du coup, tu pouvais avoir une prise en charge quand tu étais à la CMUC. Concrètement, c'est quoi? C'est voir un psychiatre?
Oui, un psychiatre.
Et les aides psychologiques, c'est quoi? C'est au CMP?
C'est au CMP, mais c'est ridicule. Enfin, pour des personnes dont la détresse, c'est... Enfin, on le sait, quoi, que la population précaire, elle est, je parle de la dépression parce que je connais, elle est très fortement touchée par la dépression, et c'est dans des mesures dramatiques, en fait, parce qu'on n'a pas la douceur du quotidien pour compenser le mal-être psychologique. Et le CMP, c'est très bien que ça existe, hein, mais c'est insuffisant par rapport à l'ampleur de ce qu'est la détresse psychologique du précaire, en fait. Et j'allais au CMP avant d'avoir la CMU, et j'avais un rendez-vous tous les 3 mois, en fait, pour quelque chose qui, de par la précarité, machin, s'était construit tout au long de ma vie, de mon histoire, etc. C'est pas suffisant, en fait. On peut pas aider des gens à se sortir de ça tel que c'est mis, enfin, par les moyens tels qu'ils sont mis en place actuellement, quoi. À part par la CMU complémentaire qui, effectivement...
Mais là, du coup, t'as accès à des psychiatres, mais t'as pas accès à des psychologues, si?
Bah, les psychologues, faudrait que je les paye dans ma poche. Voilà. C'est pas remboursé. Et quand bien même je me fais rembourser, la sécurité étudiante, elle rembourse un très très faible pourcentage a posteriori du rendez-vous, en fait. Donc, je vais aller voir mon psychiatre, je vais payer 60 balles, je vais me faire rembourser 13 balles dans 3 mois, tu vois. Et c'est même pas dit que je me fasse rembourser, d'ailleurs. Enfin...
Ton psychologue, du coup?
Oui. Non, psychiatre.
Ah, psychiatre.
Les psychologues, c'est pas remboursé.
C'est pas remboursé du tout.
Du tout.
Et donc,
tout.
Même ton psychiatre, tu seras remboursé que
13 euros? Oui, parce que la sécurité sociale, elle prend en charge très peu, en fait. Et voilà, quoi.
D'accord. T'as entendu parler de cette mesure qui a été lancée là à Toulouse, où en fait, tu peux te faire prescrire par ton médecin généraliste 10 séances de psy.
Ah oui.
Il faut que tu rentres dans des cases, en fait. Il faut que tu sois assez dépressif, mais pas trop non plus, pour pas que... Enfin, voilà, sinon tu rentres plus dans les cases. Et donc, tu as droit à 10 séances. Je crois que c'est des séances d'une demi-heure.
Oui.
Que tu dois faire renouveler après.
Ouais. Ouais. Bah oui, c'est mieux que rien. Après, je pense que c'est un peu l'administrativisation de la maladie mentale, quoi. Je sais pas ce que tu veux dire exactement par suffisamment dépressif et trop dépressif, en fait, mais je pense avoir été trop dépressive, en fait, dans ma vie. Et si ça avait été ma seule solution, peut-être que déjà j'aurais pas pu m'en saisir parce que j'aurais été trop dépressive, et peut-être aussi et sûrement que ça m'aurait pas suffi, en fait, d'y rendez-vous d'une demi-heure pour traiter un truc comme ça, quoi. Il n'y a que les riches qui font des psychothérapies de 10 ans et qui voient leur médecin une fois par semaine, en fait. Et, Et c'est injuste de donner cette possibilité à des personnes et de contraindre en 10 rendez-vous d'une demi-heure avec un concours préalable pour savoir si on est éligible ou pas à ce genre de choses, quoi. Non, bah de toute façon, moi je pense que tout doit être remis en question, on le sait très bien depuis très longtemps, et que la question de la santé, prioritairement, enfin pas de priorité, mais c'en est une, quoi. Et voilà.
Alors, petite précision, on parle de CMP dans l'interview. Donc CMP, c'est le centre médico-psychologique, il y en a plusieurs à Toulouse. Et c'est des endroits où on peut avoir accès à des psychiatres ou des infirmières psychiatres de manière gratuite sur rendez-vous, mais qui sont souvent malheureusement très surchargés.
Ok. Et il me semble que maintenant,
c'est autour de Jean Poivre.
C'est Jean Poivre qui intervient, oui, c'est bien ça.
Vous êtes bien sur Canal Sud et nous retrouvons Jean Poivre depuis le trou de la sécu. Jean Poivre, vous êtes en direct sur Radio Radier. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez ?
Oui, bonjour les radiers. Je me trouve en direct du trou de la sécu et je dois dire qu'il y a une ambiance assez particulière et nous allons explorer ça ensemble sur Canal Sud. Alors, déjà, je dois vous dire que j'entends depuis mon arrivée des coups de pioche et je m'apprête à me rapprocher.
Ouh là là, mais faites attention Jean Poivre, c'est peut-être un fraudeur.
Ne vous en faites pas, je suis protégée, j'ai avec moi un recueil complet des œuvres de Jacques Attali. Ah, je me rapproche donc, mais ce visage me dit quelque chose, mais ce serait pas Jérôme Cahuzac ?
Bonsoir Jean Poivre, oui c'est moi, Jérôme.
Bonsoir Jérôme, mais ça faisait un bail qu'on vous avait pas vu dis donc, vous étiez passé où ?
Bah ici, dans le trou de la sécu, j'y habite depuis quelque temps. Après des années de lobbying et de conflits d'intérêts pour le remboursement par la sécu de produits chers et inutiles, autant vous dire que je me suis tout de suite senti chez moi ici. Et puis j'ai beaucoup contribué à son extension. Vous voyez cette véranda, j'ai creusé les nouvelles fondations et un projet de piscine. Voilà, on m'appelle le Fossoyeur.
Quel joli surnom. Mais dites-moi, comment vous y prenez-vous réellement ?
Il s'agit, Jean Poivre, d'un forage de grande ampleur. Et tous les moyens sont bons. La base, c'est la surmédicalisation. Pour que nos labos vendent un max, on a besoin de prescriptions à gogo. Un petit rhume, 3 médocs différents, un mal de tête, direct le Doliprane. C'est pas compliqué.
Mais vous pensez que c'est vraiment une bonne idée ?
Bien sûr, qui a fait ses preuves. Une nation sous tranxène, c'est une nation servile et rentable. L'assurance de la tranquillité, finalement.
Les arguments sont séduisants. Est-ce qu'on peut peut-être continuer la visite ?
Bien sûr, suivez-moi. Alors ici, ce sont les frais d'hospitalisation de Chirac en 2016. Des frais assez conséquents, ma foi, puisque cette hospitalisation a généré beaucoup de bruit et d'odeur. Il fallait l'isoler du reste de l'hôpital. On a créé un service spécial pour les anciens présidents.
Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a là, juste derrière ? Scandale des médiateurs ? Attendez,
je ne m'approche pas. Non, non.
Jean Poivre ? Jean Poivre ? On passe à la suite.
Ah, sacré Jean Poivre, il
va nous
manquer.
Qu'est-ce qu'on rigole dans le trou de
la sécu. Oh là là, quel casse-cou.
Mais espérons. Alors, on a des nouvelles de Jean Poivre. Il a été accueilli justement au CHU de Purpan.
Il est toujours sur un lit dans un couloir. Depuis 3-4 jours maintenant.
Mais Jean Poivre n'a pas d'oreille. Mais Jean Poivre est une personne qui se remet vite des événements de la vie.
Qui fait preuve de résilience.
Exactement. Alors, justement, puisqu'on parle de Jérôme Cahuzac, je voulais vous parler un peu de l'actualité de Jérôme, parce que selon les sources de France Info en juillet dernier, Jérôme Cahuzac s'était installé à Camopi, en Guyane, à 4 heures en pirogue de la première ville. Et France Info avait demandé à l'époque le témoignage des habitants de Camopi à propos de cet étrange visiteur.
Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire ici, quoi. Et on a l'impression de voir Jérôme Cahuzac venir se cacher dans un site isolé. Peut-être qu'ils ne se sont pas aimés là-bas, chez lui.
Non, non, c'est pas qu'il se sent pas aimé, c'est je pense qu'il a une réelle préoccupation pour la pénurie de médecins en Guyane, c'est certain. Voilà, donc celui qui nous avait juré, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait jamais eu de compte en Suisse, a été condamné en mai à 4 ans de prison, mais avec une peine aménageable, c'est-à-dire qu'il a de bonnes chances d'échapper à la prison. Et d'ailleurs, si vous faites comme moi et que vous tapez « Actualité de Jérôme Cahuzac » sur votre ordinateur, vous verrez qu'en ce moment, il y a une polémique comme quoi il aurait été nommé à la Fédération française de golf. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité de Jérôme Cahuzac. Mais revenons-en à notre trou de la Sécu. Qu'en est-il du trou de la Sécu en 2018 ? Mais en fait, depuis quelques mois, nos médias préférés, alias Les Échos, BFM TV, n'en finissent plus de se réjouir. Le trou de la Sécu ne serait qu'une vieille histoire. Il se serait bouché. Grâce à quoi ? Grâce déjà à la reprise de l'activité économique et à la montée de l'emploi qui renfloue les caisses de précieuses cotisations sociales, mais aussi et surtout des économies toujours plus importantes dans le secteur de la santé, hôpitaux en flux tendu, fin des remboursements de certains médicaments, etc. Alors à Radio Radia, on a voulu en savoir un peu plus sur le trou de la Sécu et pour cela, on a ouvert le livre de Julien Duval qui s'appelle « Le mythe du trou de la Sécu » publié aux éditions Raison d'agir en 2008. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Julien Duval ? En fait, déjà, il met un peu les pendules à l'heure puisqu'en fait, il dit que ce qu'on appelle le trou de la Sécu, c'est tout simplement le besoin de financement des organismes de sécurité sociale. Bah ouais, en fait, c'est un organisme qui, avec des recettes et des dépenses. Donc, forcément, c'est normal qu'il y ait un besoin de financement de la part de ces organismes-là. Tout comme l'État, les organismes de sécurité sociale sont toujours en besoin de financement. En plus, on n'attend pas de la Sécu qu'elle ait un excédent, c'est-à-dire que ses dépenses soient inférieures à ses recettes, puisque ce n'est pas une entreprise qui cherche à réaliser du profit. Le jour où, et d'ailleurs, c'est déjà un peu arrivé que la sécurité sociale soit en excédent, ça n'a pas de sens, en fait, puisque l'objectif, c'est avant tout d'assurer des soins. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le trou de la Sécu ? En fait, c'est un parfait produit journalistique, outil de l'idéologie dominante, visant à diffuser des idées vides et toutes faites via des experts et des journalistes sur nos plateaux télé. Alors, aux origines du trou de la Sécu, ça implique d'abord un consensus politique des élites libérales, et ce depuis le 19e siècle, ces élites qui font barrage qui font la bagarre à un système communisé d'assurance santé. Donc cette vision, elle repose notamment sur des principes matériels, la baisse perpétuelle du coût du travail pour les entreprises, mais aussi des représentations classistes qui projettent sur les classes populaires les amoralités et le goût pour les jouissances immédiates, donc l'incapacité de se projeter dans l'avenir. En gros, pourquoi je dis ça ? C'est que ce que craignent les riches en instaurant ce système de santé, c'est de prendre le risque que les classes populaires s'en servent quand elles en ont besoin. C'est ça qu'on appelle les jouissances immédiates. C'est aller chez le médecin quand on a besoin.
Bah oui, j'adore.
C'est un peu abusé, quoi.
Par exemple. Ensuite, c'est aussi un discours qui légitime la baisse de l'âge à la retraite. Si les retraités sont toujours plus nombreux que les actifs, par rapport aux actifs, aux personnes qui cotisent, mieux vaut augmenter la durée de cotisation pour boucher le trou de la Sécu plutôt de légaliser tous les travailleurs illégaux qui travaillent au black et ne bénéficient d'aucune protection sociale. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Bon voilà, du coup, texte à lire si vous avez envie un peu de déconstruire tous ces discours libéraux en fait qui existent sur le domaine de les dépenses de santé et le système de l'assurance maladie. Et pour terminer, boucher le trou de la Sécu ne sera jamais un objectif valable, déjà parce que c'est absurde économiquement, mais surtout parce que l'objectif de la Sécu, c'est d'assurer les soins à tous de façon égalitaire et dans la défense des conditions de travail des soignantes et des soignants.
Oui.
Et pour poursuivre, comme là on a plutôt terminé ce dont on voulait parler de l'actualité de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Par quoi on commence ?
Déjà, rappel du Café Débat demain.
Oui.
Jeudi 13 décembre à l'itinéraire bis.
C'est la Sainte-Lucie.
Tout à fait.
C'est le retour de la lumière. jeudi 20h30, 10 rue Périole, café débat avec la CGT-CHU et Sabrina Ali Benali sur l'état d'urgence de la santé.
Et vendredi 14 donc, vendredi à partir de 14h il me semble, et qui se continue par une soirée, donc c'est une soirée de soutien au squat du 47 rue Vestrepin, au métro Fontaine-Lestang. Donc journée, soirée de soutien contre toutes les frontières. À partir de 14h, il y a du tatou à l'aiguille pour celles et ceux que ça intéresse. 17h, goûter apéro projection. 19h, open mic karaoké. Et un repas à prix libre tunisien et biélorusse. Ça va être la fête.
Youpi!
Et samedi, il y a l'acte 5 des Gilets jaunes dans Toulouse.
C'est le retour du Jedi. Non, l'Empire contre-attaque.
L'Empire contre-attaque.
J'espère pas.
Non, c'est la Révolution gagne.
Du coup.
Ah, je ne connaissais pas celui-là.
Ce qui s'est passé. Alors. Il y aura sûrement une manifestation et, dans le centre-ville de Toulouse. Petit point, n'hésitez pas, vu que le niveau de violence de la police n'a fait que s'aggraver au cours des dernières semaines, n'hésitez pas à venir protéger avec, par exemple, des lunettes, casque de protection, bon, en faisant attention à pas vous faire trop fouiller à l'entrée de la manifestation. Pour les gaz lacrymaux qui sont utilisés assez rapidement par la police, ben, vous pouvez vous mettre du Malox sur le visage. En fait, c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est une sorte... C'est ce que tu prends pour tes problèmes gastriques, ouais, à la base ?
C'est du pansement gastrique.
Voilà, c'est ça. C'est un pansement gastrique. Mais en fait, sur la peau, ça permet d'être un pansement pour ta petite peau pour qu'elle reste douce dans les lacrymaux. Et voilà.
Le jus de citron, ça marche un peu aussi.
Mais il paraît que c'est pas si bien que ça.
Ah ouais ? Dans une écharpe, je trouve ça assez efficace.
Et que ça soulage, mais c'est pas forcément le top.
Okay. Il y a une polémique là-dessus.
Ouais. De Malox, apparemment, c'est assez sûr. C'est
Malox, bon. Donc du coup, vous pouvez mélanger du Malox avec de l'eau, genre un tiers de Malox, deux tiers d'eau et une petite gorgée de Malox et ça repart. Vraiment, c'est efficace. Et voilà, sérum fille pour les yeux et surtout, prenez plein de sérum fille parce que vous n'êtes pas tout seul en manif. Et ça, c'était un peu dans le désordre, mais pensez bien à venir avec un binôme, enfin une personne, à ne pas vous retrouver seule, en fait, tout simplement.
Oui, ça peut être l'angoisse.
Dans la manif, et voilà.
Et en parlant de violence policière et institutionnelle aussi, j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, il me semble que aux urgences de Marseille, donc il y a plein de manifestants qui se sont retrouvés aux urgences et tout ça, et qu'il y a une médecin qui a tweeté qu'elle avait les noms des patients, genre qu'elle pouvait les dénoncer, et qu'ils étaient là pour de la bobologie. Voilà, donc... Ce que j'ai trouvé assez violent, sachant que la police a quand même tué au moins une personne à Marseille pendant les dernières semaines, qu'il y a eu plein de gens mutilés, défigurés, enfin bref, c'est...
Et bah. La plupart des personnes blessées en manifestation ne sont jamais déclarées, en fait. Hein.
Ouais. Non, oui, quand on voit les chiffres sur les personnes blessées dans les manifestations, c'est n'importe quoi. Enfin, il y en a beaucoup plus. Et du coup, la plupart des blessures en manif, c'est des contusions. C'est-à-dire, tu te prends soit un palais, soit un flashball. Et du coup, c'est toujours chouette de faire un check. En effet, si tu vas à l'hôpital, tu prends le risque d'être dénoncé. Et du coup, ça, c'est un truc à réfléchir. Mais c'est tout un travail à faire, mais de chercher les soignants à Toulouse... qui peuvent accueillir les personnes qui se sont fait violenter.
La team médic. Mmh. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres dates à proposer ?
Non, enfin moi non.
Moi non plus.
Eh ben on se retrouve...
En janvier.
En janvier, avec Radio Radier.
Bah, prenez soin de vous.
Bah oui, surtout. Faites attention.
Bonne chance de Noël.
Ha 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 ha.
Ça va, on me retirera pas de la tête que le boulot. C'est une habitude.
Tu sais combien de PME ont déposé l'ambiance là?
Les métiers de demain, les parcours et donc les chômeurs. Donc on a un problème terrible, c'est qu'aujourd'hui...
Monsieur le Président, je vous gratte le cul très fort avec une fourchette.
Ce sont des cotisations des salariés, c'est notre argent, c'est notre fric.
The bigger the lie, the more they believe.
Je suis content de m'être réveillé à l'heure. Et je trouverai une autre solution.